Histoire d'en savoir plus, Christiane Blain sur Radio Grand Ciel.
Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui l'ingénieur général de l'armement, Pierre-André Moreau, admis à l'école polytechnique en 1968 et diplômé de l'ENSTA en 1973, chevalier de la Légion d'honneur. Général Moreau, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, une biographie impressionnante. J'aimerais que vous nous en disiez plus sur votre parcours, parce que nos jeunes auditeurs qui veulent se tourner vers une carrière militaire seront très heureux de vous entendre en détail. Comment arrive-t-on à être général? Voilà ce qui fera plaisir à nos jeunes qui veulent envisager une carrière militaire.
Bien, dans la formation de l'école polytechnique, il y avait une période militaire et comme j'étais en bonne santé, j'ai voulu la faire dans de bonnes conditions. Je l'ai faite comme officier dans les parachutistes du 8e RPIMA, qui a été pour moi une expérience passionnante d'avoir sous mes ordres 40 soldats aguerris et solides qui n'avaient peur de rien, y compris les conditions difficiles dans lesquelles ils étaient formés.
Ça, c'était en quelle année?
Alors ça, c'était en 1971. Et après cela, ça m'a donné le goût des valeurs militaires, la rigueur, la capacité de se dépasser. Et comme j'avais, bien sûr, étant passé par Polytechnique, la filière scientifique me tentait, l'armement a été pour moi un excellent compromis entre les développements avancés et leur emploi militaire.
Alors vous avez donc décidé d'envisager cette carrière?
Alors, tout à fait, mais en même temps, j'ai rapidement fait quelques rencontres dans le monde de la défense et de l'armement qui m'ont orienté vers les armes et les munitions, un domaine gigantesque dans lequel il y avait beaucoup, beaucoup à faire pour moderniser tout notre arsenal.
Et alors là, vous étiez basé où?
Alors, je suis allé très vite après à Bourges. Et à Bourges, je suis arrivé dans le bureau d'études de Bourges, où j'avais tout à apprendre sur les techniques des armes et des munitions. Et en quelques années, j'ai pris finalement la direction de ce bureau d'études d'armes et de munitions.
Alors, justement, vous êtes également membre du conseil d'administration de la Fédération nationale de l'artillerie. Donc, c'est les valeurs de défense qui vous intéressent en particulier, j'imagine.
Alors, oui, on ne fait pas d'armement si on n'a pas un penchant naturel pour les valeurs de défense. Et la Fédération nationale de l'artillerie m'a recruté, si vous voulez, beaucoup plus tard, une fois que j'ai été finalement très connu dans les affaires d'armes et de munitions de gros calibre.
Alors, quel a été votre cheminement pour arriver là?
Alors, mon cheminement après donc pendant une dizaine d'années, je me suis occupé à Bourges d'inventer. En particulier, j'ai inventé ce qu'on appelle les munitions flèches qui ont complètement changé le combat des blindés. Et cela m'a fait sortir, bien sûr, de l'anonymat. Alors, on m'a confié, bien sûr, d'autres affaires.
Alors, je vous interromps. Oui. Les munitions flèches, expliquez-nous.
Alors, la munition flèche, c'est une munition dans laquelle le canon permet de lancer un objet qui a la forme d'une flèche, construit en métal très dense, ce sera par exemple du tungstène, et cet objet, on va le lancer à Mach 4,5 ou Mach 5, c'est-à-dire en vitesse 1500 à 1800 km/h. Et à cette vitesse-là, cet objet traverse à peu près n'importe quoi. Et quand on a fait ces premières munitions flèches, nous avons été à un moment champions du monde, il faut appeler les choses par leur nom. Mais bien sûr, nous avons été imités, il y avait une forte concurrence, mais on a été à plusieurs reprises au cours de ces années-là champions du monde. Et la munition flèche, par exemple, du char Leclerc, est quelque chose qui est à peu près ce qu'il y a de mieux toujours au monde. On peut, avec ce genre d'engin, envisager des combats de chars de jusqu'à 3 km, voire 4 km, lorsqu'on a la visibilité, ce qui a complètement changé, effectivement, la façon de se battre des cavaliers, puisqu'on appelle cavaliers les tankistes. Et je crois dire qu'ils ont très bien adopté et que se sont même enthousiasmés pour ce changement dans leur façon de se battre.
Ah oui, ça c'était vraiment pour l'armée quelque chose d'extraordinaire, si je comprends bien.
Oui, mais si vous voulez, les techniques marchent comme cela par saut. À un moment, quelqu'un invente, développe quelque chose de nouveau, et puis on est imité, hein, bien entendu. Mais alors ça, ça a été le premier objet qui m'a vraiment passionné. Au bout d'une dizaine d'années, j'ai quitté cette activité de développement qui s'est passée à Bourges et je suis venu en région parisienne m'occuper de la gestion des grands programmes parce qu'à un moment dans la vie, il faut un peu arrêter de faire et devenir celui qui fait faire, ce qui est essentiel, même si c'est un petit peu moins drôle. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à apprendre beaucoup. Et en particulier, dans cette période-là de ma vie, j'ai connu les grands programmes internationaux, qui étaient des affaires fantastiques. Monter un développement multinational, c'est un travail à la fois d'ingénieur, bien sûr, mais surtout de diplomate. Et c'est tout à fait passionnant. Alors, avec quelques limitations, toutefois, c'est que nous sommes arrivés au bout de quelques années, dans le début des années 90, et là, on a vu l'Union soviétique s'écrouler. Et la conséquence a été que les financements de ces grands programmes internationaux se sont rapidement arrêtés aussi, puisque tout le monde, un peu naïvement, croyait que nous étions arrivés à la paix éternelle avec l'écroulement de l'Union soviétique.
Et je pense, quand vous faisiez vos études à Polytechnique, est-ce que déjà vous aviez idée d'inventer ? Parce que c'est ça, vous êtes aussi un inventeur.
Alors, inventer, c'est pas, je dirais que c'est pas une vocation, mais quand on fait quand on apprend un peu de science, on a toujours effectivement l'espoir d'inventer. Je résume souvent l'invention comme la rencontre d'un problème et d'un ensemble de connaissances. On n'est pas inventeur, mais on emmagasine des connaissances. Et un jour, au croisement de ces connaissances et d'un besoin qui se profile, on peut tout d'un coup faire quelque chose auquel les autres n'ont pas encore pensé ou quelque chose qu'on est capable de faire alors que les autres y pensent peut-être mais ne sont pas capables de le faire. Et c'est comme cela. Et ça ne se fait pas tout seul dans des techniques un peu compliquées comme celles que j'évoquais. Il faut avoir autour de soi une équipe bien constituée, une équipe qui marche ensemble parce que on ne peut pas absolument pas tout savoir soi-même. Ceci dit, peut-être un des traits de mon déroulement de vie a été que dans ces sciences un peu compliquées, je me suis fait toujours un plaisir de les enseigner. Et donc, très vite, au bout de 2 ou 3 ans de carrière, je me suis mis à enseigner les techniques qu'il y a dans l'armement et qui vont depuis la mécanique des matières, la mécanique toute pure, bien sûr, aussi la connaissance des matériaux, mais également, il faut beaucoup de thermodynamique, d'aérodynamique pour les munitions. Enfin, il y a tout ce que l'on peut aimer, de la chimie pour les parties propulsive. Et tout cela fait que on est un peu recherché pour enseigner. Et j'ai enseigné effectivement dans 5 écoles, voire 6 à certains moments, à différents ingénieurs. Ces métiers que moi j'apprenais encore, j'approfondissais même constamment.
En France essentiellement ?
Quasiment uniquement en France. J'ai fait uniquement quelques interventions dans des séminaires à l'étranger, mais c'était pas du tout. Ça avait plutôt un but de montrer l'avance de la France par rapport à d'autres. À ce moment-là, c'est un peu autre chose comme idée.
Et vous enseignez à Paris ?
Alors j'enseignais à Paris, j'enseignais à Couette-Quidan.
Bien sûr.
J'enseignais un peu à l'école de l'artillerie. J'ai enseigné à l'ENSTA, d'ailleurs, dans lequel j'étais passé aussi. Enfin, bon, j'enseignais partout, finalement, où on avait envie d'orienter ou de former un peu des gens à ces techniques bizarres. Hein. Si vous voulez, les techniques d'armes sont quand même des techniques exceptionnelles en termes de vitesse. Hein, je l'évoquais tout à l'heure. Tout le monde ne va pas à Mach 5. Aujourd'hui, on vous raconte que les Russes emploient des systèmes qui vont justement dans ces vitesses, l'hypervélocité. Bon, les munitions flèches sont dans l'hypervélocité depuis 1970. Hein, les problèmes se découvrent les uns après les autres. Et puis, c'est effectivement aussi cet ensemble de connaissances qui avait été cité, en fait, qui m'avait fait sortir là aussi d'une grande forme d'anonymat, et qui fait que c'est à moi que le ministre a pensé quand il a fallu trouver quelqu'un pour restructurer les industries d'armes et de munitions qui étaient en effondrement après la chute du mur de Berlin et le fait que plus personne ne faisait de commandes dans ce domaine.
Donc là, vous étiez en fait ingénieur des armements près du ministre.
Alors, je dirais que j'étais dans le ministère, hein, bien
oui,
entendu. J'ai été promu officier général, donc relativement tôt. Mais là encore, quand on se fait repérer, on est exposé aux orientations du ministre. C'est tout à fait normal.
Et cette orientation rencontrait quand même vos propres idées.
Ah mais de toute façon, un officier général ne débat pas de l'orientation qu'on veut lui donner. Mais en même temps, j'étais un peu flatté. Et aussi, je savais que les personnels de l'entreprise qui me connaissaient m'accueilleraient plutôt comme un nouveau chef que comme quelqu'un d'imposé contre leur gré.
Oui, parce que vous aviez tout ce passé d'invention, en quelque sorte. Qui fait que vous étiez très connu déjà.
Alors, oui, et puis je retrouvais des gens que j'avais connus dans différentes affaires et qui donc n'ont pas hésité à me reconnaître comme leur chef.
Oui. Alors, vous avez donc un rôle prépondérant pour l'État de la France, c'est ça ?
Alors, on va dire ça de la manière suivante. Ces industries d'armement avait été regroupé par M. Chevènement, d'ailleurs, dans une société nationale. Et l'effondrement des commandes liées à la chute du mur de Berlin faisait que l'industrie était pléthorique, elle était démoralisée, puisqu'on ne commandait rien, on demandait même d'arrêter des commandes en cours. C'était vraiment une période très, très difficile. Et il avait donc conscience du fait qu'il y avait trop de monde dans ce domaine. Et en même temps, les ingénieurs, les techniciens et les chercheurs étaient démobilisés parce qu'ils ne voyaient plus très bien à quoi ils servaient. Alors, j'avais donc comme tâche non seulement de remettre en état économique ces industries, mais aussi de redonner une fierté, une vocation, un appétit à tous ces personnels qui étaient des personnels de grande qualité.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale.
Thank you.
Je suis toujours avec le général Moreau et nous évoquons ces grandes découvertes. Nous avons donc dans une première partie vu comment vous aviez sauvé en quelque sorte côté militaire. Mais là, pour cette deuxième partie, je crois que c'est encore mieux. Alors, général Moreau, dites-nous comment ça s'est passé, parce que je sais que vous avez fait une grande découverte qui a été vraiment utile et indispensable à l'armement. Alors, racontez-nous cette découverte et ce cheminement de pensée pour y arriver.
Je n'appellerai peut-être pas ça une découverte, mais j'ai eu la chance d'être en situation pour pouvoir mettre dans les mains des artilleurs un engin dont ils n'osaient pas rêver, si on peut dire. Et cet engin, c'est effectivement le César dont je vais vous raconter la genèse. Alors, je n'ai pas inventé César tout seul. À ce niveau de complexité d'objet, personne ne fait les choses tout seul. Il faut avoir la chance, un moment, d'être face à un problème et d'avoir, par sa formation précédente, par les différents éléments de cheminement que l'on a eus, des éléments de solution qui font qu'on est celui qui fait avancer le système et le fait naître. Alors César répondait à un rêve des artilleurs.
Qui l'avez baptisé ainsi ?
Non. Alors ça, il a été baptisé ainsi par un ingénieur de Bourges, qui s'appelait Monsieur Romet pour l'occasion.
Que vous connaissiez auparavant.
Que je connaissais auparavant et que j'ai retrouvé quand j'ai été chargé donc de restructurer ces industries. Ce Monsieur Romet avait trouvé cet acronyme César, qui veut dire camion équipé d'un système d'artillerie.
On est content de savoir.
L'idée était de faire un système d'artillerie.
Redites-nous.
Camion équipé d'un système d'artillerie, c'est un acronyme. Cette idée, j'allais dire, ce désir n'était pas nouveau, mais il était admis que c'était impossible, qu'un camion ne supporterait jamais les énormes efforts que provoque un canon lors du tir. Et une toute petite équipe, fort instruite en mécanique, a démontré que ce n'était pas vrai. Ils ont fait ce qu'on appelle un démonstrateur mécanique qui a résisté et qui a montré qu'on pouvait effectivement monter un canon puissant sur un châssis d'un camion de chantier. C'est ça qui était utilisé, un Unimog pour être précis. Et ceci aurait été très bien si le montage qu'ils avaient réalisé avait été plus avancé, mais quand on veut faire une démonstration, on ne prend pas toujours tous les éléments développés au sens où il le faudrait. Et ils ont eu un accident de canon, sans victime, heureusement.
Oui, c'est ça.
Et l'engin, à ce moment-là, a été abandonné parce que les patrons de l'époque, devant cet accident, ont été plutôt effrayés.
J'imagine.
Et c'est là que, 2 ans après, le ministre m'a envoyé pour redresser cette entreprise, que je devais donc développer de nouveaux systèmes ou les faire aboutir pour redonner du moral, de la fierté à ces équipes d'ingénieurs et de techniciens. Et j'ai bien sûr pris l'objet César comme le plus emblématique, finalement, des projets que je leur demandais de travailler.
Vous enseignez encore à ce moment ?
Alors non, et quand je suis arrivé dans le monde industriel, j'ai cessé d'enseigner pour des raisons pour ne pas être en conflit.
Ah oui.
Parce qu'un industriel vit des matériels qu'il vend, et je ne voulais pas être celui qui formait les utilisateurs pour qu'ils achètent mon matériel. J'étais en conflit d'intérêt si je continuais cela. Donc j'ai cessé d'enseigner quand je suis devenu industriel.
Et toujours à Bourges ?
Alors j'étais revenu à Bourges. L'entreprise qui s'appelait à l'époque Giat Industries avait son siège à Versailles, et donc j'avais aussi mon bureau à Versailles, mais ma direction générale était installée à Bourges. Donc je me promenais entre les deux, je vivais sur l'autoroute. Mais c'était une période tout à fait enthousiasmante. Et là, nous avons complètement changé, si vous voulez, l'orientation de ce César pour en faire non plus un objet technique, mais un objet militaire, en lui donnant une vocation tout à fait différente, qui était là encore de révolutionner le monde de l'artillerie en passant de systèmes multiples où l'on regroupe des engins de tir les uns à côté des autres, ce qu'on appelle des batteries, voire plusieurs batteries, avec un PC de commandement, et tout ça est lourd, et dans les conflits qui viennent, qui venaient déjà, on le sentait, c'était extrêmement vulnérable. Et l'idée de César, l'idée principale de César, a été de faire un système qui vit tout seul, donc qui est très peu détectable, qui est très furtif, on dit, et qui n'a pas besoin d'avoir ces liaisons complexes avec les PC d'artillerie ou autres. Il lui suffit d'être connecté au réseau d'information de l'artillerie. Il reçoit ses cibles, par exemple, de ce réseau, et en moins d'une minute, là où il est, quel que soit l'endroit où il est, il se met en mesure de tirer. Et après, en moins d'une minute, il va mettre 6 obus sur trajectoire s'il tire à une quarantaine de kilomètres. Et avant que les obus ne soient arrivés, il sera remis en condition de route et il sera reparti. Ce qui fait que l'adversaire, même s'il comprend d'où viennent les projectiles qui lui ont été destinés, il ne sait plus où est le lanceur. Et donc, on dit que le lanceur échappe à ce moment-là à la contre-batterie, puisqu'il n'est plus pas. Personne ne sait où il est. Alors, ça évite aussi de faire des regroupements d'engins qui deviennent pour l'adversaire une très belle cible, surtout si l'adversaire a accès à la troisième dimension, c'est-à-dire si on ne maîtrise pas complètement le ciel.
Alors là, vous étiez en plein secret militaire, j'imagine.
Alors, c'est plus que ça, nous étions en secret entre nous, parce que...
Entre vous.
Parce que à l'époque, les militaires, notre armée de terre, n'avaient pas encore pris conscience de ce qu'allaient être les avantages d'un tel système. Donc, il a fallu les persuader. Ça a été un long cheminement.
Ah oui, ne serait-ce que d'abord pour persuader...
Absolument. C'est un cheminement qui est venu de la base. C'est-à-dire que...
Alors, vous étiez combien à travailler sur...
Non, à Bourges, on était une soixantaine à travailler sur ce sujet.
Oui, mais c'est pas énorme.
Non, c'est pas énorme du tout. Et surtout, en fait, au départ, il n'y avait qu'un ou deux pays étrangers qui étaient séduits par le système.
Ah oui, les gens n'y croyaient pas.
Les Français n'y croyaient pas. Et surtout, ça les perturbait trop. Il fallait tout changer. Il fallait changer même la façon de commander tout cela. Et donc, ils n'ont pas sauté d'enthousiasme. Mais l'enthousiasme est venu de la base. Il est venu des équipes qui ont servi ce matériel, qu'on trouvait que c'était pas bien, bien. Et puis après, ce sont les régiments. Donc les colonels commandant les régiments qui se sont fait un plaisir de travailler avec ça et de dire « mais c'est formidable, c'est ça qu'il nous faut ». Et au bout d'un moment, évidemment, la tête a cédé. Elle a cédé d'ailleurs par la voie politique. C'est le ministre qui a dit « mais attendez, c'est bien ça, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et puis le ministre a changé et c'est Madame Alliot-Marie qui, en 2004, a lancé la commande des Césars. Je dois dire que la résistance n'était pas technique, elle était le fait de changer trop vite d'habitude. Il a d'ailleurs fallu réécrire finalement les manuels d'emploi de l'artillerie, quoi, puisque
c'était révolutionnaire
en quelque sorte. Plus du tout de la même façon. Et ce qui nous avait motivé, qui était cette furtivité, cette discrétion de l'engin, c'est exactement ce qu'emploient aujourd'hui, dans une magnifique démonstration, les Ukrainiens, qui s'en servent très très bien.
Ah oui.
Et qui d'ailleurs ont très très peu de dégâts de leur côté avec ces engins qui échappent finalement pas mal à leurs adversaires, pourtant nombreux.
Alors ces engins sont fabriqués où ?
Alors aujourd'hui, la partie artillerie fabriquée à Bourges, où c'est vraiment là qu'elle se trouve la compétence, et le montage sur véhicule se fait à Roanne.
Et alors, par exemple, donc vous les vendez ?
Ah ben après, ils sont bien sûr vendus.
Oui.
Le succès, si vous voulez, international est même assez étonnant, hein, puisque la France a 77 matériels, avait acheté 77 matériels, elle en a maintenant un peu moins, puisqu'elle en a donné aux Ukrainiens.
Donné.
Je ne sais pas comment ça se réglera financièrement, mais moi je suis un peu retiré maintenant de ces affaires.
Oui, mais vous avez dû suivre quand même, parce que c'est vous le créateur, c'est vous l'initiateur.
J'ai quelques informations qui
m'en
reviennent.
Oui, j'imagine.
Mais si vous voulez, aujourd'hui, il y a 8 pays qui possèdent des Césars. Il y en a encore 2 ou 3 autres en négociation. Et à côté des 77 que la France avait acheté en premier batch, on va dire cela, et qui vous devrait
alors, quand vous dites la France a acheté à qui alors?
Ah ben, la France achète à l'industriel qui s'appelait Jet Industries, qui s'appelle maintenant Nexter.
Et qui est toujours à Bourges?
Alors, le siège est à Versailles.
À Versailles.
Si vous voulez,
c'est passionnant.
À côté de ces centaines de matériels qui, à terme, arriveront dans les mains de l'armée de terre. Vu les commandes extérieures qu'il y a eu, c'est l'ordre de grandeur actuellement, c'est 500 matériels produits, si vous voulez. C'est-à-dire le succès international était gigantesque.
Donc vous avez fait gagner à la France.
On a surtout fait prendre à l'artillerie française 10 ans d'avance,
parce que ça a été après
très copié. Mais c'est bien, il n'y a pas de secret.
Vous êtes un génie quand même.
Pas du tout. Je vous dis, moi j'avais heureusement autour de moi une équipe et j'ai eu la chance, je vous dis, de pouvoir faire profiter cette équipe de 20 ans d'expérience acquise avant que j'en revienne à leur tête.
Oui, c'est ça. Ce qui est presque étonnant, admirable, c'est que l'Ukraine s'en serve maintenant.
Alors, oui, vous savez, en France, on est quand même discret, c'est très bien.
Oui.
Les choses militaires ne sont pas toujours trop, trop racontées, mais la France a utilisé César d'abord en Afghanistan, avec très bonne efficacité et même la reconnaissance par les Américains de l'aide que ça leur donnait. Elle a ensuite utilisé César au Mali, où là, on a apprécié de manière spectaculaire le fait que monté sur un camion de chantier robuste, le canon peut faire plusieurs milliers de kilomètres sans du tout user, sans qu'il y ait de problème de mobilité, ce qui a beaucoup servi dans la partie nord du Mali, dans ce qu'on appelle les Ifogas, qui est une sorte de montagne où il a fallu aller se battre. Et on a aussi utilisé César, alors beaucoup, et là ça a été plus médiatisé, en Irak, autour de Mossoul et autres. Là, César a fait, je vais appeler ça des merveilles, qui ont fait d'ailleurs que nos amis américains, parce qu'en Irak, l'armée française était engagée dans la coalition dirigée par les Américains. Et donc, elle ne pouvait utiliser César que s'il avait toute la validation américaine dessus. Et ceci, je ne donnerai pas de détails sur Mossoul, qui a été une bataille terrible, mais César y a joué un rôle fort intéressant. Et puis, grâce à cette mobilité que j'évoque, César a permis de relancer quelque chose qu'on ne faisait plus depuis très longtemps, qu'on appelle le raid d'artillerie, c'est-à-dire la capacité de foncer rapidement dans le dispositif adverse, de tirer donc à des zones où l'adversaire ne pensait pas qu'il pouvait être atteint, et puis de se rouler extrêmement vite sans le temps de gérer. Et ça, c'est aussi une des qualités de César. J'ajoute que, on le dit beaucoup pour ce qui se passe en Ukraine, la portée de 40 km pour un canon, c'est assez remarquable. Et surtout, qu'à cette portée-là, il reste très précis, ce qui est quelque chose de peu connu.
Eh bien, un grand merci à vous. Je rappelle aussi, chers auditeurs, que vous donnez des conférences dans le Perche et que nos auditeurs qui voudraient vous entendre, eh bien, puissent renseigner aussi pour pouvoir vous écouter. Un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci infiniment, Général.